Le programme que vous allez entendre est une rediffusion.
8h passées de 3 minutes sur Aligre FM 93.1. Et c'est Voix contre oreille, comme tous les mercredis entre 8h et 9h.
C'est très fort, tout ce violet très parce qu'il disait que quand deux.
Et vous êtes avec vos serviteurs habituels, Clément et Michel. Très bon réveil à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Voix contre oreille, nous parlons du droit des femmes, puisque c'est l'occasion de la semaine sur le droit des femmes, une émission en partenariat avec l'association Pour une constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Alors, donc, on est fidèle au micro. Aujourd'hui, une émission, donc, comme on l'a dit, sur le droit des femmes. En deuxième partie d'émission, donc, on sera avec Fabienne Lauré pour son ouvrage L'envers de Flin, une féministe révolutionnaire à l'atelier. C'est le sous-titre de cet ouvrage paru aux éditions Sileps, qui est un témoignage vraiment passionnant sur la vie bouillonnante et la condition de femme dans une usine automobile à Flin, qui n'est évidemment pas du tout évidente. Et quand je parle de vie bouillonnante, c'est la vie bouillonnante de l'engagement militant, de l'engagement syndical, et une véritable aventure que nous raconte Fabienne Lauré, qui a travaillé pendant 36 ans à l'usine de Flin. Voilà. Alors, ça sera en deuxième partie d'émission. Elle sera avec nous au téléphone. Mais tout de suite, nous sommes avec Anne-Cécile Robert. Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et membre de l'association Pour une constituante. Avec vous, on souhaitait, Clément, tu souhaitais déjà aborder la question du droit des femmes et les récents développements.
Oui, donc on voulait revenir sur les mouvements MeToo et hashtag MeToo, n'est-ce pas, et balance ton porc. Donc je voulais juste faire une petite chronologie de ce qui s'est passé depuis octobre, avant de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le 5 octobre dernier, on a un article du New York Times qui sort et qui révèle la conclusion de 8 règlements à l'amiable entre Harvey Weinstein et donc 8 femmes l'ayant accusé d'harcèlement sexuel. À la suite de ces révélations, plusieurs femmes annoncent avoir souffert du même traitement, donc de la part de cet homme, sous sa contrainte directe, mais pas seulement, certaines s'étant senties obligées d'agir en ce sens. Et ce qui fait du cas Weinstein un détonateur, c'est d'une part évidemment le nombre de femmes atteintes, donc on parle de plusieurs douzaines, de plus d'une vingtaine de femmes, mais surtout le fait que le vice de l'homme était connu à Hollywood. Donc l'affaire met le doigt sur le climat d'impunité que pouvait connaître l'homme et en règle générale ses agissements jusque-là. Dans un contexte, aux États-Unis, l'effet Trump a probablement pesé. Donc on se rappelle de cette vidéo qui avait été diffusée au moment des élections où il racontait pouvoir attraper les femmes par le sexe. Donc cette affaire qui sort dans un premier temps à Hollywood prend peu à peu de l'ampleur avec l'intervention des politiques également. Donc les démocrates Obama et Clinton réagissent parce que notamment Weinstein avait financé leur campagne. Donc à la suite de ces révélations, on a un premier mot-clé qui est utilisé sur Twitter, donc hashtag My Harvey Weinstein, puis une semaine après les révélations du New York Times, on a Sandra Mueller, une journaliste, qui tweet en français, donc je lis son tweet, hashtag balance ton porc, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. Aux États-Unis, le 15 octobre, deux jours plus tard, une comédienne, Alyssa Milano, tweet de la même manière, donc la traduction en français qui nous donne « Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, répondez à ce tweet en écrivant « Moi aussi », donc hashtag MeToo ». Donc on a la naissance, ou en tout cas la remise à jour de deux hashtags, donc balance ton porc, et MeToo ayant été utilisé auparavant, on y reviendra. Et c'est la déferlante en particulier aux États-Unis. Donc spontanément, en 24 heures, on a plus de 10 millions, on a 12 millions de réactions sur Facebook à ce hashtag MeToo. Donc, Anne-Cécile Robert, vous avez écrit récemment une tribune sur le site de l'association pour une constituante qui s'appelle Balance ton porc et le totalitarisme. Et donc, suggérant que vous voyez un potentiel risque, en tout cas, de totalitarisme, là où, à première vue, on pourrait voir une vague spontanée de femmes qui décrivent, qui souhaitent discuter d'agissements qui les affectent au jour le jour. Donc, où est-ce que vous voyez ce totalitarisme-là?
Vous avez bien résumé l'enchaînement des événements qui sont effectivement très importants, et il faut éviter les faux débats, c'est-à-dire personne, du moins autour de ces micros, ne dénie le problème des violences faites aux femmes, qui sont, je regardais encore les chiffres avant de venir, extrêmement graves et très 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 répandues. Donc il ne s'agit pas du tout de nier la réalité du phénomène, ni la nécessité de lutter contre. Il s'agit d'interroger la manière dont la question est posée, et qui n'est pas indifférente. La manière dont on pose une question va induire le type de réponse qu'on va lui apporter. Et ce qui me semble préoccupant dans le mouvement Balance ton porc, dans le mouvement MeToo, c'est qu'il est, il a été posé dans un contexte extrêmement particulier, qui est d'abord un contexte américain. D'ailleurs, en français, on dirait pas « balance ton porc », on dirait « dénonce ton salopard ». Mais le mot « porc »,« pig », est une expression américaine qui fait référence aux rapports hommes-femmes aux États-Unis, qui sont pas forcément les mêmes qu'en France. Ça s'est fait dans le contexte d'Hollywood, donc qui est un contexte très particulier. Je veux dire, si vous lisez les mémoires des grandes artistes du temps du muet, c'est-à-dire dans les années 1900, elles racontent qu'Hollywood a été fondé sur une espèce d'asservissement des femmes, où c'est des formes de prostitution à peine déguisée. Lisez les mémoires de Jean Tierney, par exemple, ou des choses comme ça. Donc le monde du cinéma est depuis très longtemps, sur ça, là, il se réveille au bout de 100 ans, ben, tant mieux, c'est très bien. Mais on faut quand même tenir compte de ce contexte particulier. Et la troisième chose qui me paraît nécessaire d'interroger, c'est que ce mouvement est extrêmement globalisant. C'est-à-dire, dans Balance ton porc, dans MeToo, on dénonce des faits extrêmement graves, comme le viol, et puis des choses qui sont embêtantes, répréhensibles souvent, mais qui sont pas du tout du même niveau, comme des paroles déplacées, des gestes déplacés, et du coup, on a une espèce de criminalisation de toutes sortes de comportements, sans faire de distinction, sans mélange. Et c'est dans tous ces facteurs que je vois un risque de totalitarisme, parce que la conclusion de l'ensemble de ces facteurs, c'est qu'on arrive à la production d'un discours officiel. Et c'est pour ça qu'il y a eu un discours officiel, c'est-à-dire il n'y a qu'une bonne manière de poser la question des violences faites aux femmes, c'est celle qui est posée par Balance ton porc, c'est celle qui est posée par MeToo, et d'autres manières sont considérées comme des déviances, ou comme de faux féminisme, d'où l'altercation qu'a provoquée, ou la polémique provoquée par la tribune signée entre autres par Catherine Deneuve, dont on peut pas nier le féminisme quand même. Mais comme cette tribune, dont je partage pas forcément l'ensemble, mais ne sortait du discours officiel, on a eu immédiatement une avalanche de critiques. Et c'est là que je vois du totalitarisme, c'est la production d'un discours officiel qui, par ailleurs, peut avoir des conséquences pratiques très graves sur les rapports hommes-femmes, et puis d'une manière générale sur le monde de la culture. Je crois qu'on a mis sur notre site, sous la plume d'André Bellon, une chronique qui raconte comment un metteur en scène italien a voulu changer la fin de l'opéra de Bizet, Carmen, pour être dans le ton de Balance ton porc. Il a changé la fin de l'opéra Carmen en faisant de Carmen une femme battue, qui, à la fin, doit tuer son harceleur, ce qui est un non-sens total, puisque le personnage de Carmen est tout sauf une femme battue. C'est une femme très forte, qui soumet même les hommes. C'est plutôt les hommes qui sont battus dans cette histoire-là. Et donc, c'est une illustration de cette espèce de cadre, de boîte dans lequel on veut faire entrer des problématiques qui sont très diverses, sans compter, je pense, les conséquences concrètes pour les rapports hommes-femmes au quotidien.
Vous parlez de discours officiel, mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir un consensus finalement derrière ces mouvements, puisque, comme je le disais tout à l'heure, 12 millions de réactions sur Facebook en 24 heures, c'est énormissime. Donc ça met quand même en évidence un problème qui existe dans la société de manière générale, et qui n'est pas seulement limité à Hollywood. Et donc on pourrait penser que... que cette réaction consensuelle, vous diriez finalement consensus, on ne sait pas sûr, on ne sait pas si clair parce que la tribune de Neuf, parce que d'autres éléments qui ont questionné ce mouvement, mais malgré tout, on a quand même une réaction massive, disons, d'une population qui visiblement est touchée par des choses qui la gênent. Ça, c'est difficile de le remettre en cause. Donc, comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut considérer que cette réaction massive, commune, a priori consensuelle, ou en tout cas un minimum consensuel de la part d'un tel nombre de personnes, soit devienne un discours officiel qui puisse être négatif, finalement?
Mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, 12 millions de réactions. Franchement, on est habitué sur les réseaux sociaux à des réactions moutonnières. Franchement, moi, je prendrais pas les réactions sur les réseaux sociaux comme un signe de clairvoyance, de mise à distance. C'est pas forcément là qu'on voit des débats sereins se poser. Et encore une fois, personne ne nie qu'il y a un problème de violence sexuelle, en tout cas pas autour de ce micro, et en tout cas pas moi. Il y a des problèmes de violence sexuelle qui sont très graves, contre lesquels il faut lutter. En revanche, la question qui est posée, et je ne suis pas sûre du tout qu'il y ait un consensus là-dessus, la manière dont cette question est posée me semble problématique. C'est ça que je dis. C'est la manière dont on parle de cette question. C'est pas du tout la réalité du phénomène. Et quand on interroge les femmes, même celles qui ont répondu à ce hashtag, elles racontent des histoires extrêmement différentes. Donc c'est ça qui me semble relever du discours officiel. C'est qu'on a quelque chose de massif qui ne se distingue pas et qui ne permet pas de poser la réalité concrète des rapports entre les hommes et les femmes, qui sont avant tout des rapports de pouvoir. Moi, ce qui me semblerait intéressant d'interroger, c'est la manière dont la comédienne Juliette Binoche l'a posé, ou l'écrivain ou l'écrivaine Mazarine Pinjot, sa question des rapports de pouvoir. Dans les violences faites aux femmes, il y a la question du pouvoir, que bizarrement, très peu de personnes veulent poser comme telle. Et qui peut d'ailleurs concerner des rapports entre, enfin, des rapports de pouvoir de femmes sur des hommes. Donc, c'est une relation de pouvoir qui est dénoncée là.
Donc pouvoir qui se manifeste au travail beaucoup, alors dans la politique, on l'a vu, bon, à Hollywood aussi, puisque c'était des hommes en situation de pouvoir également. Donc le problème du coup c'est quoi? C'est la place de l'homme et l'emprise qu'il veut garder sur la femme.
Il y a plein de dimensions à ce problème. La dimension pouvoir me semble intéressante à interroger, parce que sinon, on va rentrer dans une logique où on va faire de tous les hommes des prédateurs potentiels et de toutes les femmes des proies potentielles. C'est la conséquence de cette vision globalisante qui, à mon avis, ne fait pas consensus du tout. C'est que si on n'interroge pas la logique des relations, on va codifier. C'est forcément l'homme le prédateur, c'est forcément la femme la proie. Et d'ailleurs, l'une des conséquences de ce mouvement Balance ton porc et de ce mouvement MeToo, c'est qu'on fait des violences faites aux femmes des problèmes personnels. C'est-à-dire on demande aux femmes de dénoncer un problème personnel, alors que c'est un problème collectif. C'est un problème d'organisation sociale, comme vous venez de le poser Michel Ezrand. C'est un problème, c'est le problème de la manière dont la société fonctionne. Et si on veut pas caricaturer les rapports entre les hommes et les femmes, il faut qu'on pose les problèmes de manière générale. Et les rapports de pouvoir sont les rapports les moins étudiés, en fait, je trouve, y compris dans les milieux progressistes. des milieux que je fréquente, par exemple les milieux de gauche. Regardez le fonctionnement des associations, par exemple. Elles fonctionnent, les associations de gauche fonctionnent comme les associations de droite, par exemple. Et on n'interroge pas le rapport de pouvoir. Et il y a une phrase, c'est pas forcément mon auteur préféré, mais il y a une phrase de Michel Foucault que j'aime bien, qui dit « Le pouvoir ne se prend pas, il s'exerce ». Le pouvoir ne se prend pas, il s'exerce. Et tant qu'on n'interrogera pas l'exercice du pouvoir, qui commence même autour de ce micro, la manière dont vous parlez, dont je me saisis ou pas du micro, la manière dont on commande un café dans un bar, c'est pas ça commence comme ça. C'est pas forcément le rapport entre votre patron et vous-même. C'est plein de choses le pouvoir. Et dans les rapports sexuels, vous avez effectivement, ou les rapports, comme on dit maintenant, les rapports de genre, vous avez une forme exacerbée de rapport de pouvoir qui peut avoir des conséquences extrêmement intime avec des violences.
Il y a deux choses là. Il y a le premier, c'est sur le caractère massif de, vous disiez globalisant du phénomène. Il a un intérêt, ce caractère massif, c'est de mettre sur la place publique de manière commune un problème qui va effectivement du viol au harcèlement de rue qui sont de nature complètement différente. Certes, malgré ça, il a quand même un intérêt, c'est justement de dire ça va du viol au harcèlement de rue, ce que nous vivons au quotidien, nous, femmes, donc qui s'expriment en tant que groupe, effectivement, homogène, donc ce qui est complètement discutable. On ne veut pas simplement parler du viol, on veut également parler de toute cette étendue de problèmes qui peut aller jusqu'au harcèlement de rue, qui peut aller jusqu'à quelque chose qui pourrait sembler anodin si ça arrivait une fois dans un métro sur une ligne particulière dans une ville donnée. Et donc moi de mon point de vue, ce que je vois derrière ce mouvement, c'est justement Vous le caractérisez de globalisant et donc avec une vision plutôt négative de ce fait-là. Moi, j'y vois aussi une vision positive, qui est un point positif, qui est de mettre sur la place publique en évidence cette étendue de problématiques qui va du viol au harcèlement de rue, et de mettre un petit peu tout ça dans un, non pas dans un même panier juridique, mais dans un même panier au sens où on veut en parler et on veut questionner l'ensemble du problème. Et donc le caractère massif de ce hashtag, de ce mouvement, de mon point de vue, il a cet intérêt-là. Et donc ça, c'est directement en lien avec ce que vous disiez juste avant. C'est que c'est pas seulement les rapports de pouvoir qui sont interrogés, ce qui peut se passer au détour d'un couloir de métro qui de mon sens ne relève pas directement du pouvoir au sens où on l'entendrait a priori. Donc je parle du harcèlement, je parle du harcèlement de rue.
Que ce problème soit sur la place publique est très bien. Encore une fois, évitons les faux débats. S'il est très important que cette question soit posée, ce qui est gênant, c'est la manière dont on pose la question qui encore une fois globalise énormément les choses, et c'est assez représentatif d'ailleurs de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire les rapports de sexe aux États-Unis sont pas du tout les mêmes qu'en Europe, et en particulier, en tout cas pas en France, des rapports extrêmement conflictuels qui sont liés à l'histoire des États-Unis, au fait que c'était des sociétés puritaines, que ça vient du monde anglo-saxon et protestant, et chez nous c'est pas du tout le même type de rapport. Et la globalisation qui est induite par Balance ton port va empêcher de poser des nuances.
Alors, si je le dis autrement, est-ce que cette globalisation, dans quelle mesure cette globalisation est nécessaire à ce qu'on parle à ce point de ce phénomène ?
Je pense qu'on est toujours libre de bien poser une question. Et là, comme on est dans une société médiatique qui fonctionne avec des emballements, avec des caricatures, avec de la victimisation, avec du larmoiement, c'est beaucoup plus facile de balancer à l'antenne une femme qui a subi une violence et qui va pleurer, avec des fois des scènes complètement hallucinantes, comme ce qu'on a vu entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, deux femmes agressées sexuellement qui n'arrivent même pas à s'écouter. Enfin, c'est quand même. Alors, si vous voulez une illustration du problème posé par la globalisation de Balance ton port, vous l'avez. Vous avez deux femmes victimes quasiment des mêmes problèmes qui n'arrivent pas à en parler, en se disant même, je ne peux pas entendre ce que vous dites. C'est quand même fou. Donc, c'est cette manière de poser la question qui me semble dangereuse. Et je voudrais que les femmes s'interrogent également. C'est une victoire de la question soit posée. parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de comportements qui maintenant sont en retrait, mmh. mais il faut que les femmes s'interrogent pour savoir pourquoi elles sont autant touchées. C'est-à-dire, on est toujours en mesure, on est toujours maître ou maîtresse de la manière dont on réagit à une violence. Je parlais de Christine Angot et Sandrine Rousseau. Vous pouvez et c'est le sens de l'entretien que j'invite tout le monde à lire, accordé par Juliette Binoche dans Au Monde le 22 octobre 2017, où elle explique, elle raconte sa propre expérience et elle dit que un petit peu comme dit l'écrivain belge Pierre Mertens, l'erreur compte moins que la manière dont on la traverse. Et la violence qu'on a subie, elle est aussi ce qu'on en fait. Et on ne devrait pas quelque part, bon, le viol est un phénomène particulier, mais on ne devrait pas se sentir autant touché. Personnellement, c'est toujours un peu con de se prendre comme exemple. Moi, quand j'entends des insultes machistes, je me dis, c'est le mec qui a un problème, c'est pas moi. Et si c'est dans le cadre de l'entreprise, je vais dans le bureau du patron, puis je lui dis, voilà. Je me sens pas touchée, ça m'empêche pas de dormir.
Oui, mais on sait bien que souvent dans le monde du travail ou ailleurs, ces agissements ne sont pas reconnus. C'est-à-dire une femme qui s'en plaint à son responsable, qui peut-être est un homme, les faits vont être minimisés. Et puis c'est surtout la répétition qui est évidemment insupportable, puisque comme on le disait, si c'était un cas isolé une fois, bon, on passe, mais c'est la répétition. De ces faits-là qui finalement, et le fait qu'ils ne soient pas reconnus dans leur gravité qui doit être assez insupportable à vivre.
Mais exactement, je veux dire, tout ce qui porte atteinte à la dignité des personnes, et en particulier dans le cadre d'un rapport de travail, quand c'est votre supérieur hiérarchique, doit être dénoncé et combattu, mais toutes les formes de violence, je dirais. Et ce qui est interrogeant dans l'univers du travail, c'est que si vous dites qu'on n'entend pas les femmes qui se plaignent, mais ça vient aussi c'est pas seulement les hommes qui n'écoutent pas, c'est parfois aussi les femmes. Parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut interroger la question du pouvoir, qui n'est pas très jolie à regarder. D'abord, il y a des femmes machos. Il y a des femmes qui trouvent très bien qu'il y a une domination masculine et qui donc vont pas être solidaires d'une femme qui subit une agression. Et puis, il y a une concurrence des femmes. C'est des choses qu'on observe. On dit, tiens, celle-là, elle est éliminée. Je vais la laisser avec sa dépression parce qu'elle est harcelée. Puis moi, je vais lui piquer sa place. Donc, c'est pour ça qu'il faut poser les questions de la manière la plus générale possible, et le fonctionnement des entreprises doit faire la place. Moi, je suis pour, contrairement à ce qui se passe en ce moment, qu'on renforce l'inspection du travail, qu'on renforce le rôle des délégués du personnel, que les instances collectives soient développées, mais partout, on parle des entreprises là, tous les lieux où la parole circule, pour permettre que justement toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement ou de violence, de quelque type que ce soit, puissent s'exprimer. Il faut créer ces espaces-là, absolument, pour éradiquer ces comportements de violence qui peuvent détruire des gens. Je veux dire, des femmes qui subissent du harcèlement, ça peut être la dépression, après on perd son boulot, c'est des trucs énormes.
Comment vous expliquez que la question n'ait pas été posée à ce point, en tout cas a priori, jusque-là, avant ce mouvement?
Je pense qu'elle, d'abord, elle l'a été, je pense, souvent de manière discrète. Après, c'est un peu comme pour tous les phénomènes de discrimination. La prise de conscience, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. On peut parler du racisme, on peut parler des violences faites, enfin des discriminations dont sont victimes les personnes handicapées. Bon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on prend conscience? C'est souvent malheureusement dans les pires conditions. Moi, je suis très sensible aussi à la question des personnes handicapées. Je suis très frappée de la manière dont on mélange aussi toutes les problématiques. Personnes handicapées physiques, les personnes handicapées mentales. Bon, là, il y a une prise de conscience, tant mieux. Encore une fois, tant mieux. Pas de faux débats, c'est très bien. En revanche, interrogeons-nous sur la manière dont on pose la question. À mon avis, on va sans doute créer d'autres problèmes en pensant en résoudre.
Et donc, vous pensez, par exemple, que dans une certaine mesure, la femme intériorise sa situation de dominer. C'est un peu ce qui ressortait de ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que vous disiez qu'il faut interroger aussi la position de la femme et le rôle des femmes.
Exactement, chacun d'entre nous doit s'interroger, et puis on doit s'interroger individuellement, puis aussi collectivement. Est-ce qu'on est capable d'écouter, d'observer? Moi, il m'arrive d'avoir des responsabilités, en pensant à des choses comme ça, je me dis, faut pas que j'attende qu'un salarié vienne se plaindre, il faut que je sois aussi en mesure, moi en tant que responsable, de détecter, pour aller au-devant de quelqu'un qui n'osera peut-être pas parler, parce que justement il est dans une situation hiérarchique, et donc c'est à nous qui sommes...
Pardon, je coupe. Est-ce que c'est pas ça l'intérêt justement du mouvement? Est-ce que c'est pas justement de mettre dans les têtes, dans celles qui n'avaient pas ça en tête, ou alors dans celles qui l'avaient un peu, mais de leur réaffirmer cette domination généralisée, on l'appellera comme on veut, cette problématique, quoi.
Ben, j'en suis de moins en moins convaincue, vous voyez, parce que je pense que ce qui sort, c'est pas la vérité. C'est-à-dire, on pense qu'on est en train de dénoncer les violences faites aux femmes, en fait, on est en train de parler peut-être de beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est problématique. Je serais beaucoup plus tranquille si, effectivement, on était resté sur le terrain de la dénonciation des violences faites aux femmes, qui sont un problème qui touche pratiquement toutes les femmes, qu'il faut absolument dénoncer. Mais je pense que c'est autre chose qu'on est en train de faire là. On est en train de dénoncer des types de relations sociales, on est en train de codifier les rapports entre les hommes et les femmes, ça va devenir extrêmement compliqué. Avec l'une des conséquences, c'est qu'on va faire disparaître les zones grises. J'ai fait un post sur mon Facebook que j'avais appelé « Balance ton Julien Sorel ». Alors pour ceux qui se souviennent du bouquin de Stendhal, hein, la fameuse scène où Julien Sorel, pendant une heure, se demande s'il va prendre la main de Madame de Rênal, il n'ose pas parce que... Voilà. Et ben moi, je pense à toutes les Madame de Rênal qui n'auront jamais d'amant, parce que Julien Sorel n'osera plus jamais prendre leur main.
Donc vous avez peur que ça débouche sur un certain puritanisme qui est peut-être importé des États-Unis, mais qui peut, arriver chez nous aussi. Tout acte ambigu va être dénoncé.
Il faut que chacun soit responsable dans cette affaire. C'est-à-dire dénoncer les violences, mais être soi-même en situation de s'interroger. Pour être capable de se comporter comme un adulte, poser les limites, et encore une fois, essayer de détruire les situations de pouvoir qui font que les femmes vont être en situation d'être harcelées, et détruire les situations de pouvoir qui font que des hommes vont être en situation de faire subir ça à des femmes jusqu'à détruire des vies entières. C'est ces interrogations-là qu'il faut avoir. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut pas ignorer les logiques aussi d'intérêt qu'il y a derrière ça. Il y a des féministes aujourd'hui qui sont de véritables entrepreneuses identitaires. On ne se citera pas forcément de nom, mais qui ont intérêt à ce qu'il y ait un féminisme officiel dont elles sont elles-mêmes les gardiennes et qui délimite le périmètre de la manière dont on doit poser les choses et qui font taire tout le monde avec l'aide des médias.
On est ensemble dans Voix contre oreille sur Aligre FM 93.1. Il est 8h30. On est avec vous, Anne-Cécile Robert. Vous restez avec nous pour la deuxième partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, donc on va rejoindre Fabienne Lauré. On parlera de la situation au travail, à l'usine de Flins. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans une usine automobile? On se retrouve juste après une petite pause.
Putting up borders, splitting the earth into worlds. So if I belong to the third world, it means that the first bears more fruit. So selfish with what we have, and not really mindful of who will suffer. And so we continue to tear down a brood, never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If you're asking what your life is worth, what will the answer as you litter the ground? The earth will
will serve us justice. Well, I'll live you and me. Whatever storm, you know there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No mountain money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. Don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty. Well, if we cannot see, we feel. Polluting our waters and putting the poison in food. Everything made to sell so we don't hear the truth. Never ever thinking long term. Always thinking of what we can earn now. If I ask you what your life is worth, what will you answer as you litter the ground? The earth will serve us justice. We'll outlive you and me. With every storm, you know there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. Don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty. Well, if we cannot see, we feel. We'll catch up, we'll catch up. Not until the end has come and all our air is running out. Will we believe? Because then we'll see. Oh. The earth will serve us justice. We'll outlive you and me. With every storm that pulls, there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. We'll outlive you and me. With every storm that pours, there's justice. The sea washes the street. No amount of money will protect you from all the energy we steal. No amount of money will protect you. The earth will serve us justice. We'll outlive you and me. With every storm, you know there's justice. The sea washes the street. Why do you curse the place that serves you? What makes you think that we're supreme? No amount of money will protect you from all the energy we steal. The earth will serve us justice. Don't have to choose to believe. We all think that we're so mighty. Well, if we cannot see, we feel. The earth will serve us justice. Well, I'll live you and me.
On se retrouve dans Voix contre oreille sur Aligre FM 93.1. On est avec Clément autour de la table. Nous sommes avec Anne-Cécile Robert. Et au téléphone, nous rejoint Fabienne Lauré. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors, donc vous signez cet ouvrage L'envers de Flin, une féministe révolutionnaire à l'atelier. Aux éditions Sileps, préfacé par Annie Coupé d'ailleurs. Donc c'est un livre qui retrace toute l'histoire, toute votre histoire à l'usine de Flin, où vous avez commencé en 72 jusqu'en 2008, donc 36 ans dans l'usine en tant que femme. C'était pas forcément évident. Vous êtes arrivée dans la mouvement de mai 68, évidemment, à l'usine, et vous étiez ce que vous appelez, enfin, ce qu'on appelle une établie. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une établie?
Alors, il y a eu un mouvement qu'on appelle d'établissement, des établis un petit peu avant 68, et puis aussi pas mal après, dans les débuts des années 70, et peut-être jusqu'en dans les années 80, de militants qui faisaient souvent partie d'organisations d'extrême gauche, révolutionnaires, au départ plutôt maoïstes. Moi, j'étais dans une organisation qui était issue de la Ligue communiste, maintenant qui est le NPA, qui s'appelait Révolution, et qui avait pensé que suite au mouvement social de mai 68, qui était le plus grand mouvement social qu'on ait vécu au XXe siècle, en tout cas en France, eh bien, la centralité de la classe ouvrière était déterminante pour changer la société et remettre en cause le pouvoir en place. Donc, comme les révolutionnaires n'étaient pas très présents dans les entreprises, c'était plutôt le Parti communiste, et bon, eh bien, il fallait y aller directement. On ne pouvait pas attendre et on ne pouvait pas faire le travail d'explication, de propagande, etc., de l'extérieur qu'il fallait être à l'intérieur. Donc, il y a un mouvement, et moi, je suis rentrée avec un groupe à l'usine de Renault Flins, dans les Yvelines. On était plusieurs, on était quatre établis dans Renault Flins, dont mon compagnon de l'époque, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle « Le Flin sans fin », en 78, et puis deux autres copains, Jacques et Jean-Pierre. Et puis il y avait aussi des établis dans d'autres usines de la région, parce que c'est une région très industrielle, la vallée de la Seine, entre Poissy et Mantes, si vous voulez.
Mais donc, en tant qu'établi, il fallait se cacher, j'imagine, quand vous êtes fait recruter.
Au départ, évidemment, on ne pouvait pas dire que moi j'avais le baccalauréat, j'avais deux années de fac, mais j'avais rien obtenu parce que j'avais fait que militer dans les années, tout de suite après 68, de 70 à 71. Et évidemment, on se cachait pas, mais on occultait certains aspects qui auraient peut-être mis la puce à l'oreille et dit que qu'est-ce qu'on allait foutre justement aller travailler en chaîne ou dans les ateliers alors qu'on était un peu disons qu'on pouvait faire autre chose, même être dans les bureaux quoi, par exemple avec le baccalauréat. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont le baccalauréat qui travaillent sur les chaînes de montage. Donc il fallait qu'on se fasse